Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 6 et ça va très bien avec ce qui a été dit pendant la présidence. Un passage bien connu, Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34. Écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, c'est Jésus qui parle, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans ses greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour. Suffit sa peine. Je sais que vous, vous n'êtes pas comme moi, que vous inquiétez jamais dans votre vie. Donc je vais parler à moi ce matin, tout simplement. Vous vous inquiétez des fois ? Oui, mais pourquoi ? On ne devrait pas normalement, d'après ce que j'ai entendu ce matin et ce que dit la Bible. Hein, mais c'est vrai quand on regarde le monde aujourd'hui, ben c'est pas terrible. Hein. C'est un triste constat qu'on peut faire et quand on voit les menaces terroristes, quand on voit le chômage, quand on voit la maladie et tout ça, ben ça peut nous faire paniquer à un moment et forcément de s'inquiéter. Alors, le Seigneur ne remet pas en question qu'on s'inquiète quelque part, parce que c'est légitime. Hein, mais le problème, c'est est-ce qu'on s'inquiète ou est-ce qu'on vit par la foi ? Trouvez quelques citations par rapport à l'inquiétude, hein, plusieurs auteurs, je vais les nommer comme ça. L'inquiétude, habitante éternelle du cœur humain. C'est vrai, hein, on est comme ça. Un autre disait, hein, c'est un proverbe arabe, la fatigue est la ruine du corps et l'inquiétude la faucille de l'âme. Je trouve ça joli, même si c'est terrible. Un autre, un proverbe suédois disait « À une petite chose, l'inquiétude donne une grande ombre. » Et c'est vrai que des fois, les tout petits trucs, on en fait toute une histoire. Jésus disait « Qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Combien d'années vous avez gagné à vous inquiéter ? Ou de jours, je ne sais pas. » Généralement, on les perd parce qu'on est en train de s'angoisser. Un autre disait « L'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. » On ne doit pas s'inquiéter tout souvent, notre frère. Je vais le taquiner. Et puis un dernier dit, l'inquiétude est un poison subtil qui distille ses effets au compte-gouttes à longueur de temps jusqu'à l'intoxication. C'est tellement vrai, ces citations-là. Et on est tous dans cet état, des fois, où on se laisse avoir par l'inquiétude. Mais le Seigneur, au travers de ce texte, veut qu'on apprenne à vivre par la foi et pas par les yeux. Alors, ça, c'est un choix, un moment, hein, qu'il faudra faire. Est-ce que je veux vraiment vivre par l'inquiétude ou est-ce que je veux vraiment chasser ces inquiétudes ? Évidemment, par nous-mêmes, nous n'y arriverons jamais. Ça dépend tout simplement si je compte, oui ou non, sur Dieu. Et c'est ce que j'aimerais partager ce matin, hein, avoir une vie confiée à Jésus-Christ, faire confiance dans le Seigneur. Alors, on est tout feu, tout flamme de dimanche matin, j'ai confiance dans le Seigneur. Et puis, lundi, premier problème qui arrive, hein, lundi, c'est mardi dernier, j'ai ma vitre arrière de la voiture qui a explosé en pleine route, quoi. Je dis, ouais, chouette, merci Seigneur. C'est pas agréable des fois, hein, mais bon. Première chose qu'on peut apprendre dans ce texte, c'est que Jésus nous demande d'avoir confiance en lui. Alors là, texto, on va dire, j'ai confiance en Dieu. Vous avez confiance en Dieu, j'espère. Oui. Ouais, pas l'air d'un manque confiance. Ouais. Parce que Jésus mérite notre confiance. Déjà, Jésus nous le demande. Donc ça veut dire qu'on peut avoir confiance en lui, hein, et on doit avoir confiance en lui. Sinon, à partir du moment que je n'ai plus confiance, je commence à douter de lui. C'est ça le problème. Et puis je pense que chacun d'entre vous, vous pourrez témoigner qu'à un moment ou à un autre, Dieu a apporté la preuve qu'il était là et qu'il nous a sortis de situations difficiles, l'une ou l'autre. Peut-être pas des choses extraordinaires, mais il était là. Et toutes ces petites expériences, eh ben, ça forge ma foi, ça encourage ma foi tout simplement. Et Jésus a promis en Matthieu 28, 20 aussi d'être tous les jours avec nous, avec vous. Formidable ça. Vous êtes au travail, Jésus est avec vous. Vous êtes dans la famille avec vos enfants, Jésus est avec vous. Vous êtes sur la route, Jésus est avec vous. Et pourquoi des fois on doute alors ? Pourquoi on panique ? Pourquoi on s'inquiète ? Jésus est avec nous. C'est vrai que des fois, comme je dis, j'aimerais bien avoir un petit SMS de temps en temps dans une situation difficile de la part de Dieu. Ça serait un peu plus... Voilà. Mais ça, c'est la foi par la vue. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais Jésus est avec nous. Il veut une confiance dans tous les domaines de notre vie. Le quotidien, vous avez besoin de nourriture, de vêtements, comme dit le texte. La santé aussi, parfois. C'est des choses que Jésus dit que c'est légitime, évidemment. On en a besoin. Dans la famille aussi, par exemple, où le travail, le chrétien peut compter sur lui. Je vois dans cette église des gens qui cherchaient du travail il y a 2-3 ans et toutes ont trouvé du travail. Mais on a prié, on a pris le temps, ils ont cherché aussi, mais le Seigneur a pourvu au moment où il fallait. C'est formidable, ça c'est l'expérience justement. Et après, quand on sera dans une situation difficile, on pourra dire, la dernière fois on a prié, le Seigneur a répondu, pourquoi il ne le ferait pas cette fois-là? Puis il y a les épreuves de la vie, la santé, on peut avoir des problèmes de santé, le chômage, c'est pas toujours drôle de passer par ce moment-là, la dépression. Et il y a des chrétiens qui sont des fois dépressifs. Il y a des doutes. Je parlais avec un pasteur une fois qui, à un moment, a été pendant un an dans le doute complet. Imaginez prêcher avec le doute, accompagner les gens dans le doute. Le diable attaque aussi d'une manière ou d'une autre, mais il en est sorti. Mais c'est vrai que des fois, on peut douter de Dieu, tout simplement. Une confiance sans limite à cause de l'amour de Jésus pour nous. Dieu est un père. Vous souvenez votre papa en espérant que vous aviez un gentil papa. Mais Dieu est le meilleur des papas, je crois. Non ? Ah oui. Votre Père Céleste, dit le texte, sait que vous en avez besoin. C'est pas à moi de lui rappeler, de lui dire « Oh, rappelle-toi que j'ai besoin de vêtements, de nourriture ». Le Père Céleste sait déjà ce que vous avez besoin dans 3 semaines. Vous ne savez pas. Sauf si vous êtes prophète, mais là, je crois qu'il n'y en a pas. Dieu sait ce que vous avez besoin. Alors, je ne sais pas si on s'arrête, Dieu m'aime. Dieu sait de quoi j'ai besoin, donc ça veut dire que Dieu aussi va pourvoir à mes besoins. Alors des fois, ça ne vient pas aussi vite que j'ai envie. Moi, je suis un peu pressé des fois. Et des fois, ça prend son temps. Mais Dieu sait de quoi j'ai besoin. Pourquoi je vais commencer à râler, taper des pieds, parce qu'on est comme ça des fois. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Il connaît nos besoins légitimes et même les autres, avant même que nous naissions. Vous n'étiez même pas né, il savait que vous viendriez aujourd'hui, que vous avez des besoins pour demain, etc. Avant même que vous naissiez. Alors, je ne sais pas. Comment on peut encore un peu s'inquiéter? Si, je sais comment, on est des êtres humains, hélas. Mais voilà, c'est une vérité. Douter de ses soins, et c'est ça le problème, c'est en fait remettre en question l'amour de Dieu pour nous. Quand je doute, quand je panique, quand je remets en question ma foi, quelque part je dis, Dieu ne m'aime pas vraiment comme il devrait m'aimer. Il aime souvent les autres, parce qu'on compare aussi, l'autre il n'a jamais d'épreuve, il n'a jamais de difficulté. Non, là on est en train de remettre tout simplement en question l'amour de Dieu. Et ça, c'est triste. Vous imaginez notre Père, quand on lui dit que nous doutons de son amour pour nous. Ça doit être triste. Et puis je crois surtout que douter, parce qu'avec mon expérience, c'est l'effort du mensonge. Quand je doute, je mens. Dieu ne va pas m'aider, je mens. Dieu ne connaît pas mes besoins, je suis en train de mentir complètement. Et je pêche quelque part aussi, contre moi et contre Dieu. Le Seigneur voudrait qu'on fasse plutôt l'effort de la vérité. Parce que c'est un effort. C'est plus facile d'aller vers le mensonge en disant « Ah, Dieu ne connaît pas mes besoins, etc. » Et je doute, ça c'est très simple à faire, mais l'effort de la vérité, c'est de savoir que non, Dieu sait mes besoins, Dieu va pourvoir en son temps et selon sa manière. Mais ça, c'est un effort qu'il faut faire. Mais ça, c'est la vérité, puisque la Bible nous le dit, tout simplement. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté par le mensonge du doute, petit baffe, Puis l'effort, vous savez qu'on met dans le mensonge, parce que il y a tout un effort qu'on concentre là, on peut aussi l'utiliser, on va dire, de façon positive, entre guillemets, et plutôt s'appuyer, en prenant le temps de lire la Bible, de se rappeler les promesses que Dieu a faites pour chacun d'entre nous. Mais c'est un effort. C'est une confiance totale en Dieu, mais pas en nous. Alors je ne sais pas si quelqu'un ici a totalement confiance en Dieu. Voilà, ça prouve qu'on est en train de douter encore des fois. On n'est pas un Abraham, on n'est pas encore peut-être des gens comme ça, mais on veut apprendre à avoir confiance en Dieu. Je ne pense pas que le Seigneur nous demande d'avoir une totale confiance du jour au lendemain. C'est l'expérience qui va créer cette confiance. Les vieux briscards de chrétiens, au bout de 80 ans, ont commencé à avoir confiance en Dieu. Et quand on est jeune chrétien, on panique au départ. C'est normal. Mais avec l'expérience, je veux voir que Dieu s'occupe de moi. Et puis, qui peut ajouter un peu de sa vie par l'inquiétude? Alors, c'est impossible. Et puis surtout, est-ce qu'on est des dieux, entre guillemets? Parce que c'est ça, quelque part. Si je doute, quelque part, je remets tout en question, même Dieu lui-même, et quelque part, je me prends comme un Dieu, quelque part. C'est triste d'agir comme ça. Et puis, l'inquiétude ne va pas changer le lendemain. Vous pouvez faire tout l'effort dans votre tête, le lendemain, ça ne va pas changer. Il sera comme Dieu a décidé de le faire. Donc, à quoi ça sert de perdre son temps? Parce que moi, je trouve qu'on perd des fois notre temps. par notre angoisse, est-ce que vous avez déjà changé une situation dans votre vie? Personne. Personne ne pourra témoigner de cela. La seule chose que vous avez changé, c'est vous, votre joie, votre paix. Ça, c'est sûr. Mais l'angoisse ne changera absolument rien. Parce que sinon, si on pouvait changer les choses, ben, j'arrêterais pas d'angoisser. Hein. Mais bon. Mais c'est perdre du temps. Oui, non, mais je ne vais pas angoisser, vous inquiétez pas. C'est perdre du temps que de s'inquiéter des fois. Je sais, mais je vis comme vous, je m'inquiète aussi des fois, mais je sais que je perds souvent du temps. Parce que je sais que Dieu s'occupe de tout pour moi. Il faudrait qu'on accepte notre condition d'enfant de Dieu. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant a confiance dans son papa et dans sa maman. Et pourquoi nous n'avons pas confiance dans notre Père céleste? Il s'agit d'être totalement dépendant du Père. Dépendant, hein, pas juste petite relation, mais vraiment dépendant avec Dieu parce qu'il est parfait et parce qu'il est plein d'amour pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi s'inquiéter si Dieu est avec nous? Qui sera contre nous? Il connaît mes besoins, il connaît vos besoins, il les connaît jusqu'à la fin de votre vie. Alors, il y a juste à lui déposer et puis il s'en occupera. Après, vous allez me dire, oui, mais des fois, ça ne vient pas vite. Ben oui, et alors? Il sait comment faire. Il sait aussi comment va falloir faire grandir ma foi, parce que je ne pense pas qu'on soit des grands héros de la foi pour l'instant ici, ni moi non plus. Et je vois que des fois, il permet d'étirer un peu l'élastique pour que, ben justement, la patience grandisse en moi, la sanctification, la transformation, et que ben, j'accepte que c'est le temps de Dieu. Et à un moment ou à un autre, Dieu répond, sauf si ce n'est pas dans sa volonté, évidemment. Mais ça, on n'aime pas. Nous, on dit, on veut, il faudrait que ça arrive tout de suite, hein, hélas. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète aussi. Deuxième point, c'est comment faire confiance à Jésus. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que la confiance, comme dit le texte, se bâtit sur l'observation et l'expérience. Hein. Observer la nature, comme dit Jésus, hein, créée par Dieu. De temps en temps, il faut s'arrêter et puis regarder autour de nous ce qui se passe aussi. Et c'est ce que fait Jésus. Hein. Les oiseaux sont nourris gratuitement. J'aime souvent le dire quand je vais à Carrefour ou ailleurs. Je vois toujours les petits moineaux qui ont toujours à manger tous les jours. Et ça me rappelle tout le temps ce passage-là. Eux, ils mangent tout le temps à l'œil. Moi, je dois payer quand je vais à Carrefour. Hein. C'est marrant. Hein. Voilà, Carrefour, hein. Ouais, Leclerc, c'est mieux. Mais ils ont à manger tous les jours. Et regardez-les la prochaine fois. Alors, si eux ont à manger, pourquoi nous, on n'en aurait pas? Et puis, les lys des champs, c'est quelque chose qui est très éphémère. Et pourtant, Dieu les veut de façon très royale. Hein, alors que c'est quelque chose qui passe tout de suite. Eux, est-ce qu'ils sont si précieux à Dieu? Bon, je pense que Dieu aime sa création. Mais nous, on est vraiment précieux à Dieu, totalement précieux à Dieu. Il a donné son Fils, justement. Alors, comment ne pas être sûr qu'il va apporter ses soins pour moi, tout simplement? Alors, restez pas devant les petits moineaux, hein, ça fera bizarre si je dis ça. Mais se souvenir aussi de nos expériences passées, hein, dans l'élan du doute, s'arrêter et se dire, ah, allez, on va faire un petit bilan de tout ce que Dieu a fait pour moi jusqu'à présent. Regardez en arrière, ça fait du bien. Alors, il faudrait faire presque tous les jours quelque part parce que ça stimule la foi. Dieu, est-ce qu'il n'a pas pris de soin de moi dans les problèmes que j'avais la dernière fois, dans tous les domaines que j'avais, hein? Oui, il l'a fait, d'une manière, d'une autre, mais il l'a fait. Alors, s'il l'a fait autrefois, pourquoi d'un seul coup il s'arrêterait? Il ne change pas, le Seigneur, et ses promesses restent toujours valables. Hein? Regardez en arrière. Et pourquoi il s'arrêterait maintenant, hein? Vous savez, celui qui dit que que Dieu va s'arrêter dans ses soins, c'est Satan. Et on l'écoute bien souvent. Hein. C'est l'ami du doute et c'est aussi un douteux ami, quelque part, entre guillemets. Parce que là où nous, on commence à se jeter dans l'inquiétude, bah, lui, il va rajouter un petit peu son grain de sel. Et s'il peut vous enfoncer dans la dépression, il se fera un plaisir. Mais à nous de résister aussi. À nous de ne pas accepter cela. La confiance, c'est aussi faire le choix, et j'insiste sur le mot « choix » de Jésus-Christ. Nous pouvons faire l'effort de nous inquiéter ou l'effort de la foi. C'est un effort dans les deux cas. Dans un cas, vous perdez du temps, dans l'autre, vous gagnez du temps. L'effort de l'inquiétude est nuisible, en fait, à notre santé. J'avais trouvé un texte qui parle, dans une version un peu psychologique de l'inquiétude. Hein. L'inquiétude est une opération intellectuelle qui consiste à imaginer et extrapoler à partir du présent une situation plus ou moins désagréable, et à se faire du souci à son sujet. L'inquiétude engendre un grand nombre d'émotions, ensuite. Bien que l'inquiétude ne soit pas une émotion, elle présente des similitudes avec la peur. Parce que quand on est inquiet, on a aussi peur un peu. D'abord, comme la peur, l'inquiétude ne porte pas sur le présent, mais sur un événement futur possible. On n'a jamais vu nos inquiétudes se réaliser, hein, bien souvent. La personne qui s'inquiète s'appuie sur des événements présents pour anticiper la situation appréhendée. Ensuite, comme la peur, l'inquiétude s'alimente à même l'imagination. Et là, on est des professionnels. Hein. Quand on s'inquiète, on sait imaginer. C'est la fin du monde, hein, bientôt. Ce qui est vrai aussi. Mais bon. Dans les deux cas, le fantasme peut être réaliste ou irréaliste, mais il est toujours hypothétique. Quand on s'inquiète, on suppose quelque chose. C'est une hypothèse, c'est pas une réalité. Enfin, de même que la peur, l'inquiétude est subjective. Certaines personnes sont plus portées que d'autres à s'inquiéter de ce qui pourra arriver. On n'est pas tous pareils, c'est vrai. Mais je pense qu'avec le Seigneur, on peut changer dans ce domaine-là. Donc s'inquiéter, c'est se mentir. C'est complètement hypothétique. Ça ne sert à rien. À moins que vous soyez prophète et que vous savez exactement ce qui va vous arriver le lendemain. Mais je crois pas. C'est un peu ça, c'est un peu l'effort que fait l'athée. Parce que l'athée, lui, il ne va pas compter sur Dieu, il va compter sur lui-même. Il va compter sur sa force, il va compter sur ses exploits, sur son orgueil, etc., comme on a dit tout à l'heure. Mais il refuse de croire que Dieu va l'aider. Il ne compte même pas sur lui, il ne va pas l'appeler du tout. Et des fois, on agit de la même manière. Souvent, à la fin, peut-être, quand on est vraiment au bout du rouleau, qu'enfin, on dit au Seigneur, aide-moi. Mais souvent, on essaie de se débrouiller tout seul d'abord. C'est bien dommage, mais ça marche rarement. C'est faire l'effort, comme j'ai dit, de croire en Christ. L'inquiétude ne change rien, on a dit. Elle ne change ni l'histoire, ni les projets de Dieu. Et j'insiste sur les projets de Dieu. Dieu a un projet pour chaque vie. Il y a des moments où il va permettre qu'on passe par des épreuves. C'est bien fait pour nous. C'est bien, vous ne dites rien. On peut dire non, hein, quelque part. C'est bien fait pour nous parce que ça va nous apprendre la foi, ça va nous apprendre la confiance en Dieu. Mais comme j'ai dit, si j'essaie de changer le lendemain, je n'y arriverai pas parce que c'est le plan de Dieu. Donc, si Dieu a prévu quelque chose pour ma vie, je ne pourrai jamais le changer. Et puis, il vaut mieux lui faire confiance parce que lui, il fait bien les choses. Jésus, lui, a le pouvoir sur le temps, pas moi. Je suis incapable de gérer le temps. Donc, il mérite ma confiance. Et franchement, entre me faire confiance moi-même dans mes inquiétudes et avoir confiance en Dieu, en Jésus-Christ, excusez-moi, c'est plus avantageux quand même, quelque part, au bout. Puis la confiance, c'est comprendre que Dieu connaît nos besoins. Ça, c'est la foi. Les païens ne connaissent pas Dieu. Ils cherchent le vêtement, la nourriture. Ils ne comptent pas sur Dieu, mais ils comptent sur eux. On a vécu ça autrefois, quand on n'était pas chrétien. Ils font avec ce qu'ils ont. On est bien d'accord. Ils s'inquiètent pour des choses inutiles, bien souvent. Et alors, on aime bien s'enrichir. On aime le pouvoir, le succès, etc. Peut-être pas tout le monde qui veut être le président de la République, mais quelque part, on veut être le plus haut possible. C'est aussi notre société qui nous conditionne de cette manière-là. Mais ils perdent du temps. Ça sert à quoi la gloire? Au final, on meurt de toute façon. Ça sert à quoi toutes ces choses-là? Mais le chrétien, lui, il connaît les soins de Dieu. Enfin, on est censé les connaître. Dieu est aux petits soins avec lui tous les jours. Le jour où on verra Dieu, je crois que quand on lui demandera, mais quand tu étais à mes petits soins? Il va, tous les jours, il était à côté de vous, d'une manière ou d'une autre. Et on va halluciner, à mon avis, le travail qu'il faisait chaque jour pour chacun d'entre nous. Évidemment, on ne le voit pas aujourd'hui, mais j'en suis convaincu. Mais ça, c'est par la foi qu'on doit l'accepter. Il faut faire confiance dans les bienfaits de Dieu. Même que les bienfaits de Dieu, des fois, on voudrait qu'ils soient un peu plus bien que ce que nous recevons. Mais bon, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu donne juste ce qu'il faut, nous dit la Bible, dans 1 Timothée 6, 8. Il veut qu'on soit content avec la nourriture et le vêtement. Ouais, mais mon iPhone, oh, j'ai demandé un iPhone, moi. Ou j'ai demandé telle voiture, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi Dieu il donne à quelqu'un et pas à moi? Ouais, c'est injuste quelque part. La nourriture et le vêtement, il ne parle pas de maison. Quand on y réfléchit un petit peu, il veut qu'on soit content avec la nourriture et le vêtement seulement. Alors, après on réfléchit, on dit quand même Dieu est extrêmement bon, non? Parce qu'en plus on a la maison, on a la belle voiture, on a du travail, on a un tas de choses, et on a le iPhone pour certains. Quand même, Dieu prend soin de nous. C'est extraordinaire. Donc arrêtons de râler bien souvent en disant « j'ai jamais autant que mon voisin, Dieu me donne ce que j'ai besoin en ce moment-là ». Pour autant, ces soins ne sont pas méritoires. On peut se dire « j'ai une belle maison parce que je suis un bon chrétien ». C'est complètement faux ça. C'est pas méritoire parce qu'il a dit dans la Bible qu'il fait pleuvoir sur le juste et l'injuste. Et même avant d'être chrétien, moi j'ai vu Dieu travailler dans ma vie, mais il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça. Il prenait soin déjà de moi avant même que je le connaisse. C'est extraordinaire non, quand on y réfléchit. C'est dommage que l'injuste, évidemment, lui, il ne reconnaît pas cela. Mais bien souvent, le juste, le chrétien, ne reconnaît pas non plus les soins de Dieu. Ou du moins, bon, on y pense de temps en temps. C'est bien de faire le bilan. Alors, on le fait souvent à la fin de l'année ou au début d'une année en disant « Ah, Dieu a pris soin de nous dans l'année ». Mais pendant toute l'année, on s'inquiète, on a des difficultés, tout ça. Et puis, on est très fiers de dire à la fin de l'année « Tu as pris soin de nous ». Mais si on voyait comment on a vécu cette année, des fois, c'est un peu triste. Il faudrait prendre le temps peut-être une fois par semaine, pourquoi pas tous les jours, de dire merci Seigneur pour la journée, pour les soins que tu m'as donnés, tout simplement. Donc l'expérience et l'observation, fortifie la confiance que le chrétien doit avoir en Jésus-Christ. Et dans l'épreuve, prenez le temps de regarder en arrière, prenez le temps de voir ce que Dieu a fait pour vous. Ça donne du peps pour aller en avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être triste, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, mais on sait qu'on va en sortir aussi avec le Seigneur. Troisième chose qu'on peut apprendre dans ce texte, c'est la confiance en Christ vient de nos priorités. C'est ça le plus important. La priorité normalement du chrétien, c'est le royaume de Dieu. C'est toute notre priorité, normalement. Bien souvent, ce n'est pas notre priorité, hélas. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète aussi. Dans nos vies, il y a deux sortes de priorités, bien souvent. Il y a celles qui sont éphémères. Elles ne servent pas Dieu, parce qu'on cherche la gloire, la richesse, la beauté, l'orgueil. Peut-être pas les chrétiens, mais encore que. Bien souvent, on va chercher des choses que Dieu n'a pas envie qu'on cherche, forcément. Et elles sont éphémères, et elles passent, et ça ne sert à rien. Par contre, la priorité de ce qui concerne l'éternité, s'investir dans l'avancement du royaume de Christ, ça, c'est utile. Ça ne signifie pas que je ne dois pas travailler, ça ne signifie pas que je ne dois pas avoir une famille, etc. On peut vivre de cette manière-là, tout en ayant envie que le royaume de Christ avance. Hein. C'est quoi chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice ? Chercher le royaume, c'est tout simplement souhaiter ce que Dieu souhaite aujourd'hui pour la terre, pour moi, pour l'Église, pour les gens, et aussi pour l'avenir, tout simplement. Mais si je ne sais pas ce qu'il va faire, ce qu'il veut, etc., parce que je ne connais pas la Bible, je ne peux pas souhaiter l'avancement du royaume de Dieu. C'est normal. Donc il faut que je prenne le temps de savoir ce qu'il veut exactement pour pouvoir chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est chercher la justice aussi de Dieu. Ah, est-ce que vous êtes juste tous les jours ? Non, on est loin d'être juste hein, dans nos relations avec les autres, même avec moi-même, des fois, on est loin d'être juste. Mais chercher le royaume, c'est aussi chercher sa justice. Et cette justice, Christ nous l'a démontré dans sa vie, sa manière de vivre. Il nous a montré c'est quoi être juste. Des fois, être juste, c'est difficile pour l'autre. Hein. Des fois, être juste, c'est difficile pour nous-mêmes aussi. Mais on vit dans un monde tellement injuste. Une petite lueur de justice de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais bon, l'injustice n'aime pas la justice. Donc forcément, vous allez le faire reprendre. Mais c'est ça, être chrétien, c'est aussi être juste comme Christ a été là où il m'a placé. Par exemple, être inquiet, c'est juste ou injuste devant Dieu ?
Juste.
Alors pourquoi on le fait ? Pourquoi on est inquiet ? Je le dis à moi, hein, je ne vais pas juger. Pourquoi on est inquiet alors qu'on sait très bien que c'est injuste à l'égard de Dieu ? Il prend soin de moi. C'est injuste de lui dire, ah bah non, je n'ai pas tout ce que je veux. Pourquoi mettre la priorité sur Christ ? Comme ça, il m'a gracié. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous méritiez la mort. C'est vrai que quand on est jeune chrétien, on s'en souvient, on sait que d'où on vient et ce que le Seigneur a fait pour nous, mais au bout de 20 ans, on a oublié. C'est bien de s'en souvenir, c'est pour ça qu'il y a la scène. On a été gracié. Je suis maintenant enfant de Dieu, je lui appartiens. La Bible nous dit même qu'on est esclave de Christ. Alors, pas au sens qu'on a à l'époque, bien que quelque part, on est à disposition de Christ, normalement. On doit le suivre. Et parce qu'il m'a gracié, je veux être reconnaissant éternellement. Et c'est là, justement, que parce que j'ai de la reconnaissance, que Christ va devenir ma priorité et mon but aussi dans ma vie. Pourquoi mettre encore la priorité sur Christ ? C'est parce que je lui appartiens. Je suis son serviteur, normalement. Je suis censé obéir à mon Seigneur, à sa voix, à sa parole. Ceux qui ne font pas de Jésus leur priorité ont souvent un autre but dans leur vie et souvent ils sont un peu désespérés et bien tristes. C'est dommage, parce qu'avec Dieu, si il est vraiment notre but dans notre vie, ça change complètement la vie du chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens un peu zombies, des fois, comme je les appelle, qui vivent sur deux choses à la fois, la chair et puis ce que Dieu veut dans leur vie, et ils se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux. Il faut simplement faire de Dieu, de Christ, ton but uniquement et ta priorité. Et comment faire de Christ ma priorité ? C'est un choix. Je ne peux pas le faire pour vous. Qu'est-ce que j'aimerais le faire pour vous, hein ? Bonjour, clac. Voilà, maintenant tu as envie de suivre Christ. Ah, l'église, elle serait remplie, là. Ça irait vite. Mais c'est votre choix et je ne peux pas le faire pour vous. C'est le choix de suivre Christ. Je veux le suivre. Quand on dit je veux le suivre, c'est qu'on ne sera pas forcément parfait. Parce que ceux qui suivent Christ, Pierre, Paul et tout ça, n'étaient pas parfaits non plus. Mais ils ont suivi le Seigneur et ils ont fait le choix de le suivre. Et on le suit parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. C'est l'inclure dans ma vie. Ça veut dire quand j'ai des projets, je passe par Christ. Je veux une nouvelle maison, je veux un nouveau boulot, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme projet. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur ? Ça, c'est inclure Christ dans ma vie. C'est faire travailler aussi le royaume, quelque part, d'une certaine manière. Je l'inclus dans mon travail, tous les jours, quand je pars au boulot, plutôt que faire la tête dans le RER, penser que le Seigneur est avec vous. Enfin, j'espère que vous ne souffrez pas à ce moment-là. Dans la famille, pas toujours simple, la famille. Si on inclut le Christ, ben, les choses vont beaucoup mieux, normalement. Normalement. Tout devrait passer par Jésus-Christ. C'est ça, participer au royaume de Dieu ou vouloir l'avancement du royaume de Dieu. Tout ce que je fais, Christ doit avoir son bout de nez, entre guillemets, dedans. Et ça change complètement la façon de vivre et ça marche un peu mieux, bien souvent. Alors quand je dis ça marche un peu mieux, c'est que quand j'ai des projets et que Dieu vous dit non, merci Seigneur. Vous dites souvent merci quand Dieu vous dit non, hein. Je suis sûr, convaincu. Oui, mais quand moi je me dis un jour je serai au ciel et puis je lui demanderai mais pourquoi tu as refusé là? Il me dit regarde, tac, 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 tac. C'est ça que j'ai voulu t'éviter. Mais nous on est têtus des fois. Les avantages de chercher le royaume, c'est bon pour le moral. Une chanson qui était comme ça à l'époque. Mais c'est vrai, c'est bon pour le moral que de chercher le royaume de Dieu. Si je cherche, si ma vie se projette sur simplement le travail, la santé, les loisirs, vous êtes bien tristes, mes amis. Mais si, en plus, j'ajoute là-dedans l'avancement du royaume de Christ, alors là, la vie, elle change complètement. Il y a un but. Hein, c'est bon pour moi. Je ne bâtis pas en vain. Les maisons sont bâties en vain, nos voitures sont vaines parce qu'on va les perdre, tout ça. Mais l'avancement du royaume de Dieu n'est pas vaine. C'est utile au présent parce que ça va peut-être toucher des gens et les amener à Christ, mais c'est aussi utile pour l'éternité, tout simplement parce que ces gens vont aussi participer pour l'éternité dans le paradis. Et puis surtout, j'oublie les faux tracas du quotidien. Qu'est-ce qu'on sait bien s'inquiéter pour des choses qui ne servent à rien, des fois. Hein ? On est d'accord ? Et on perd du temps. C'est des faux tracas. Et là où des fois je me dis, ah, mais qu'est-ce que je vais mettre, est-ce qu'on va manger de la soupe demain, plutôt de se dire, ah, c'est chouette, il y avait un peu plus de monde à l'église, on va prier pour d'autres qui vont se convertir, etc. On voit le Seigneur travailler en nous, c'est quand même plus sympa quand on réfléchit dans notre tête. Les choses légitimes nous seront données par-dessus. Le Seigneur a dit, vous ne préoccupez pas de ça. Je donne après, il n'y a pas de problème. Mais la première chose que vous devez faire, c'est vous occuper de mes affaires à moi. Dieu gâte celui qui le cherche et qui le sert. Il le gâte. Bon, à condition qu'il ne veuille pas des millions non plus. Mais Dieu gâte celui qui le cherche. Parce qu'il arrête de chercher les choses inutiles et se concentre sur les choses qui sont vraiment utiles. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler, on est bien d'accord. Ce n'est pas ça l'idée. Hein. Mais je me concentre sur quelque chose qui est vraiment utile. Et puis, il faut quand même s'arrêter en se disant, on est quand même gâté. Franchement, non. Et c'est des choses que le Seigneur nous donne par-dessus tout, tout simplement, sans qu'on ait même des fois à rien demander. C'est avoir le nécessaire aussi, parce que des fois, on passe par des bons moments, on est content, et puis des fois, bah, on tombe un peu dans la disette, et là, on dit, c'est pas ça que j'aimerais bien. Mais à ce moment-là, je suis toujours gâté, j'ai mon nécessaire. Vous n'êtes pas dans la rue encore. Moi, j'ai vécu dans la rue, je sais ce que c'est. Et il y en a qui vivent dans la rue, c'est horrible, mais on n'est pas dans la rue. Et ça, c'est formidable. Le Seigneur me gâte, tout simplement. Pourquoi s'épuiser pour la vanité, puisque Dieu s'occupe de nous? Ben, j'ai plus qu'à accepter ses soins tous les jours. Merci Seigneur, pour le peu que tu m'as donné aujourd'hui, mais merci pour cela. Ma confiance en Dieu est aussi une forme d'évangélisation. Vous savez, si vous dites à votre conjoint ou à vos collègues que vous êtes chrétien, et bien que vous arrivez avec une tronche de zombie tous les jours, allez-y, c'est ça votre Dieu, moi j'en veux pas de votre Dieu. Hein. Et souvent les chrétiens sont comme ça, hélas. Ça a un impact sur mon voisinage, mon conjoint par exemple. Si on est plein de joie pour le Seigneur et confiance et on a besoin des fois de se rassurer l'un et l'autre dans le couple, ça nous encourage et ça démontre aussi les soins des enfants, les soins de Dieu pardon, à nos enfants. Parce qu'eux, ils voient comment vous réagissez et ils prennent note. Hein. Ah ouais, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils comptent sur Dieu, mais regarde, à chaque fois ils paniquent quoi. Ben, nous aussi on va paniquer. C'est une forme d'éducation hélas, quelque part. Alors, normalement, on ne parle pas devant les enfants de problèmes. Je dis ça comme ça. Mais on le voit sur nos visages et les enfants sont très sensibles aussi dans ce domaine-là. Puis ça a un impact sur mon entourage. Hein. Quand je suis plein de joie, même quand les difficultés sont loin, alors, avec un sourire bête, hein, on est bien d'accord, mais quand on est dans l'épreuve et que les gens voient que malgré tout on avance, hein, avec les forces que le Seigneur nous donne, ben, c'est une forme d'évangélisation aussi. Et ça a un impact sur les gens, bien souvent. J'évangélise par ma foi tous mes proches. Juste par la vue, des fois. On veut faire des grands discours, des fois, mais simplement être un témoignage pour l'autre, c'est aussi une forme d'évangélisation. Si Christ est réellement notre priorité, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, alors on sera en paix, tout simplement. Mais il faut qu'il soit ma priorité. Il faut qu'il soit dans ma vie la priorité. Pas le dimanche, pas le mardi, ou je ne sais pas quand. Tous les jours, il est ma priorité. Puis une quatrième chose qu'on voit, la confiance en Christ doit se renouveler chaque jour. Tous les jours, il faut que ça recommence. Je sais pas, vous n'avez pas marre un peu des fois? Non, vous êtes encore en forme, c'est pas ça. Vous allez voir dans 20 ans. Ne pas s'inquiéter pour demain, puis le demain, et le lendemain, et le surlendemain. Hein, parce que nous, on s'inquiète déjà pour l'année qui arrive, bien souvent. Alors c'est facile à dire, ne pas s'inquiéter, hein, c'est facile à dire aux autres. Mais pour moi-même, c'est pas toujours évident. Mais le problème que s'inquiéter, et ça on n'en prend pas vraiment conscience des fois, c'est que quand je m'inquiète, je cherche à deviner l'avenir. Je devine l'avenir. C'est perdre son temps. C'est une imagination qui n'est pas une vérité, parce qu'on délire des fois complètement. Dans notre imagination, c'est jamais positif. Hein. On ne se dit jamais « Ah, mais Dieu va me sortir de là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune difficulté. » C'est souvent « Non, bah, tu as vu l'autre, il a plus que moi, jamais Dieu m'aime, etc. » Mon imagination, elle peut aller toujours loin. Et vous savez, deviner l'avenir, on fait bien le reproche des fois avec l'horoscope, mais quand je devine l'avenir, quelque part, je fais pareil. J'essaie de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Des fois, je l'entends avec cet horoscope à la noix. Des fois, c'est n'importe quoi, hein, franchement, excusez-moi. Mais moi, par mes inquiétudes, je cherche des fois à deviner l'avenir. Et là, ça devient grave, quelque part, devant Dieu aussi. On remet en question sa justice pour nous, son amour pour nous, mais en même temps, quelque part, on fait comme le monde. Et de toute façon, vous pouvez deviner tout ce que vous voulez. Vous ne savez même pas ce qui va arriver à midi tout à l'heure. Donc, ça ne sert à rien. On perd le temps. Moi, je ne suis pas maître de l'avenir. Je ne peux pas gérer les choses. Je peux gérer quelques petites choses autour de moi, mais le temps, ce n'est pas moi qui le gère. L'histoire, ce n'est pas moi qui la gère. C'est Christ et Dieu. Et Christ est maître de l'avenir. Lui, il est souverain. Il sait tout ce qui va arriver. Il sait très bien comment faire avec chacun d'entre nous. C'est un grand mathématicien qui arrive à faire la grande équation. Parce que des fois, je me dis, ça doit être hallucinant, l'équation qu'il y a là. J'aime pas les équations, en plus, donc elle tombe bien. Mais lui, il sait comment faire, de A jusqu'à B. Et entre deux, ce qu'il veut, c'est simplement qu'on apprenne à avoir aussi un peu de foi. Il nous travaille, il nous éduque spirituellement. Mais il peut nous faire parvenir au but, celui que lui, il a décidé pour nous. Et des fois, ça sera non, des fois, ça sera oui, des fois, ça sera à temps. Mais ça sera son plan. Et il faut lui faire tout simplement confiance. La Bible nous dit, le lendemain aura soin de lui-même. On l'a dit, nos pensées ne changent pas l'histoire. Parce que sinon, en ce moment, je changerais toute l'histoire. Ah, je voudrais que le président soit chrétien. Je voudrais qu'il n'y ait pas beaucoup de choses en France. Hein, et il y aurait plus de chrétiens. Si je pouvais, par mes inquiétudes, changer l'histoire. Demain aura lieu, ça c'est sûr. Enfin, j'espère pour tous encore. Mais ça sera selon le plan de Dieu. Même si des fois, on ne voit rien. Des fois, on se dit, mais où il est Dieu? C'est souvent ce que disent les païens. Pourquoi il y a des guerres? Où il est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Oh là là, Dieu, il travaille, ne vous inquiétez pas. Seulement, on a notre responsabilité aussi hein, vis-à-vis de ce que l'on fait. Mais demain, on aura bien lieu, si Dieu le veut, et selon le plan que Dieu a pour cette humanité. Dieu a déjà préparé notre lendemain. Il sait déjà demain tout ce que vous allez faire, quand vous allez râler, quand vous allez dire merci, quand vous serez inquiet. Il sait déjà tout ça. C'est génial, non? Bah ouais. Non, ça vous dit, il y a que moi. Ben, il faudrait que ça intègre notre esprit, notre cœur et puis notre lendemain. Parce que, ah ouais, mais c'est vrai que Dieu connaît mon planning déjà. Il sait que peut-être il y a une voiture qui va débarquer, il va peut-être m'éviter l'accident. Bon, ben, il m'a fait exploser la vitre. Voilà, tant pis, ça arrive. Hein. Mais il sait tout cela. Dieu a préparé notre lendemain. Il suffit de prendre la main de Dieu et de le suivre. L'inquiétude nous prive de la vie selon Dieu. Corrie ten Boom, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'était une femme qui était dans les camps de concentration, disait « L'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain, elle prive aujourd'hui de sa force. » Et c'est vrai, quand on est inquiet, on est malheureux, on est tout raplapla. Et c'est simplement parce qu'on essaie d'imaginer l'avenir, d'imaginer ce qui va nous arriver de terrible demain ou après-demain, et là on devient complètement raplapla. Alors qu'en fait, si je compte sur Dieu, si je sais qu'il connaît les choses, ça ne veut pas dire être débile non plus, hein, que ouais, on laisse tout faire, non, on s'entend. Mais je veux avoir confiance en Dieu. Et ma force, ma paix, ma joie, ben, je la conserve justement. Je dépose. Vous savez, on dit souvent, il faut déposer les fardeaux. On le dépose, on fait 2-3 pas en avant et puis on court vite le rechercher. Hein. Hop. Voilà, ben, on ne sait jamais parce que des fois, Dieu ne peut pas faire les choses correctement. On est comme ça. Dieu ne peut pas faire les choses correctement. À chaque jour suffit sa peine, hein, nous dit la Bible. C'est la devise d'une ancienne pendule déprimée, dont je vais lire un peu l'histoire. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a, mais la pendule de mon bureau fait une drôle de figure depuis quelques jours. Vous regardez votre pendule tout à l'heure. On dirait qu'elle est en pleine déprime. Elle s'est rendue à l'hôpital pour consulter le spécialiste. Hein. Ma brave dame Pendule, qu'est-ce qui ne va pas? Docteur, j'en peux plus. En pleine nuit, je me réveille, je suis écrasé par ma tâche. Je pense à ces 86 400 tic-tac à effectuer. Et puis, je prends de l'âge. Hein. Non, vraiment, je n'en peux plus, docteur. Aidez-moi. Pauvre Pendule. Madame Pendule, j'ai un excellent moyen pour vous remonter le moral. Au lieu de vous tracasser au sujet des innombrables tic-tac à égrener pendant la journée, faites-en simplement un après l'autre. Tout simplement. À chaque jour suffit sa peine. Vous imaginez, j'imagine bien souvent toute l'année avec toutes les difficultés. C'est aujourd'hui qu'il faut que je m'occupe simplement. Demain, je suis peut-être mort et j'aurais perdu mon temps en fait. Bêtement. Ben oui. Chaque jour suffit ma peine, oui, tout simplement. Et au lieu de déprimer, ben, considérons la journée d'aujourd'hui. Bon, il faut des fois se projeter, je suis bien d'accord. Mais considérons la journée d'aujourd'hui. Une journée à la fois, ça demande beaucoup moins d'efforts. Ben, on est bien d'accord. Courir 100 km et courir 1 km, c'est moins crevant. Enfin, à moins qu'il y ait vraiment des athlètes ici, mais je pense pas. Hein. Sinon, je vous ferai un test tout à l'heure. Mais un jour à la fois, prendre le temps simplement de s'occuper de ma journée. Et vous verrez que ça change complètement notre façon de vivre. Ça demande moins d'efforts. Ça m'empêche des projections complètement farfelues, bien souvent, de m'inquiéter, etc. C'est simplement obéir à Dieu un jour à la fois. Et c'est le Seigneur qui nous donne et qui dit chaque jour suffit sa peine. C'est pas moi, hein. C'est moi. C'est Jésus qui me dit qu'il faut que je considère seulement ma journée. Et durant cette journée, je vais considérer aussi les soins que Dieu prend pour moi tous les jours. Et à la fin de la journée, regardez. Ah ouais, ça s'est bien passé. C'est moins passé avec peut-être mon collègue, etc. Mais je suis encore vivant. Hein. Je suis pas mort, je suis pas en prison, je suis pas, je sais pas. Donc il y a de quoi dire merci au Seigneur, même si des fois les journées ne sont pas comme on voudrait, mais à la fin de la journée, je suis là, encore vivant, dans ma petite maison, avec ma nourriture et mes vêtements. Et donc on peut dire merci au Seigneur. Oui, mais parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont en prison, qui sont mis à mort. Donc eux ont de quoi s'inquiéter quelque part, et je suis sûr que si on avait les témoignages de certains, ils vous diraient, mais ne vous inquiétez de rien, parce qu'eux, ils ont compris que Dieu est vraiment avec eux. Un jour à la fois, nous dit la Bible, avec Jésus pour capitaine. Voilà, ça c'est le mot d'ordre. Voilà le projet de Dieu pour que nous puissions vivre épanouis. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'on soit malheureux, triste, déprimé, je ne sais pas quel adjectif on pourrait utiliser. Il a permis qu'on soit gracié, qu'on naisse de nouveau et qu'on ait une vie pleine de joie. Paul a vécu cela et il a vécu beaucoup de choses terribles, oui, mais souvenez quand il était en prison, je crois, avec Silas, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'il faisait? Oh là là, je suis encore en prison. Comment je vais faire pour en sortir? Comment je vais faire? Je vais me faire tuer. Il chantait. Des fois, quand on y réfléchit un petit peu, il chantait, il louait Dieu. Et juste après, je crois que c'est un ange qui est venu les délivrer. Eh oui, comment nous vivons notre vie? Est-ce qu'on croit vraiment en Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il est là avec nous? Pour terminer, à la lumière de ces versets, ne vous inquiétez de rien. Jésus nous dit que la vie est belle. C'est ça qu'il est en train de nous dire, non? La vie est belle. Pas reprendre des émissions télé, là, mais vraiment, la vie est belle, quelque part. À condition, évidemment, de la vivre comme le Seigneur nous demande de la vivre. Pourquoi le chrétien vivrait-il triste, angoissé, alors qu'il est l'enfant de Dieu? Quand même, mon papa, il est extraordinaire. Pourquoi moi, je serais malheureux? Si encore il me battait, s'il était méchant avec moi, je comprendrais. Mais Dieu est parfait, et il m'aime. Et il peut tout, c'est ça surtout, il peut tout, tout pour moi. Donc, il s'agit de se considérer comme cet enfant de Dieu et surtout aimé de Dieu. Nous pouvons marcher chaque jour en sécurité, ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera rien, mais en sécurité avec Christ qui va nous aider et va nous soutenir. Et il est là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais pour cela, ça dépend de moi. Il faut que je saisisse sa main tous les jours. Il faut que j'aie la foi. Il faut que j'aie confiance. Et surtout, il ne faut pas que je lui lâche la main. Sa main est toujours là. C'est moi qui lâche bien souvent. C'est moi qui ne la saisis pas. C'est à moi de faire cet acte et cette décision, ce choix dans ma vie de foi, tout simplement. Pour cela, il faut saisir la main de la confiance et ne pas la lâcher. C'est jamais Dieu qui vous lâchera, c'est toujours nous qui allons le lâcher. Dieu a déjà planifié tous ses bons soins pour vous, pour moi. Demain, après-demain, 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 dans 3 ans, dans 10 ans, je ne dirai pas dans 100 ans parce qu'on n'aura peut-être plus là, à mon avis, mais Dieu a déjà tout planifié. Il sait ce qui va vous arriver. J'espère que des bonnes choses, hein. En tout cas, je vous souhaite. Mais il a déjà tout planifié. Alors, profitons tout simplement de la vie, comme Christ le veut, en étant plein de joie, en paix, Et je crois que c'est un moyen aussi de glorifier Dieu. On cherche souvent à glorifier au travers de la louange et un tas de choses, mais une vie qui est pleine de paix, de confiance en Dieu, je crois que c'est aussi une vie qui glorifie le Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. On te demande pardon pour nos inquiétudes, pour nos doutes parfois, pour nos luttes vis-à-vis de toi, pour rien te cacher de toute façon, et tu nous connais au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, fais-nous prendre conscience ce matin de ta présence, de ta souveraineté dans ce monde, de ta puissance aussi, de cette capacité que tu as à pourvoir à tous nos besoins selon ta bonne volonté. Prends-nous à te faire confiance, Seigneur, à saisir cette main que tu nous tends chaque jour, Seigneur, et à vivre cette paix que tu voudrais dont on devrait jouir chaque jour, Seigneur, grâce à toi. Tu connais les situations des uns et des autres, et tu permets des fois qu'on passe par l'épreuve, mais tu le fais simplement par amour pour nous, pour que notre foi grandisse. Et rappelle-nous-le la prochaine fois que nous sommes dans la difficulté, et à force d'expérience, Seigneur, que nous puissions avoir de plus en plus confiance en toi, Seigneur, pour rayonner autour de nous aussi, être un témoignage pour ceux qui ne te connaissent pas et pour ceux qui te connaissent aussi, Seigneur. Apprends-nous à ne plus nous inquiéter, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.